enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Peut-être dans cette semaine sainte, on pourrait lire un texte ensemble, qui, un vieux texte qu'on connaît presque par cœur, tellement par cœur qu'on pourrait passer par-dessus sans y découvrir sa saveur. Je prends ça en introduction juste pour introduire quelques images. J'ai ramené 60 ou 65 images qui seront projetées sur les écrans pour vous rapprocher un peu les hommes et les femmes de qui on vous parle. Il est marqué dans Jean 3, versets 14 à 21. Un texte d'une profondeur remarquable. Nous allons le lire. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, verset 14, Jean 3, verset 14, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge dans le monde, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres se manifestent parce qu'elles sont faites en Dieu. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Quand Dieu parle du monde, il ne parle dans ce texte-là certainement pas de la faune et de la flore, des lacs et des montagnes, des mers et des fleuves, mais il parle d'hommes et de femmes comme vous et moi. Il parle d'hommes et de femmes en chair et en os, vivant dans un monde bien réel, dans des cultures différentes, dans des langues différentes, dans des pays très différents, mais il les aime profondément. Et ce soir, je me suis dit, je souhaite vous ramener ce que Sam, Christian, Bertrand, maman ont vécu là-bas, de vous ramener un peu ce peuple qu'il aime là-bas, plus proche de vous. Et je me suis dit, on va faire des photos, à la fois des gens, que vous allez voir des gens, mais aussi du pays, pour que vous voyez le contexte dans lequel l'église là-bas, en Kabylie, évolue. Alors, on va couper les lumières de la salle. On va aussi couper toutes les lumières de l'estrade, à part les lumières de veille, si c'est possible. Je vais me prendre le pied de micro. Je ne sais pas ce qu'il est, le pied de micro. On va essayer de faire ça bien avec des commentaires et tout écrit. L'Algérie, peut-être d'abord préciser un petit peu le contexte géographique. L'Algérie est un pays qui fait 4,5 fois la France, pratiquement 2 382 000 km², avec la grosse partie du sud, le gros triangle du sud, triangle inversé, qui est le Sahara, qui représente 2 millions de km². Il y a une côte au nord qui fait 1200 km de long, qui va du Maroc à la Tunisie, une bande de 200-300 km de large, et c'est la côte, là, je dirais, la plus florissante, et c'est d'ailleurs là que j'ai été la semaine dernière. L'Algérie, c'est à peu près 30 millions d'habitants, photo suivante, 30 millions d'habitants, à peu près, ça fait 12 habitants au kilomètre carré, avec une disparité importante, c'est que 96% des habitants habitent le long de la mer, sur 17% du territoire. Une autre remarque à faire par rapport à la population algérienne, elle est jeune. Dans les années 95 à 2000, 39% des Algériens avaient moins de 15 ans. Seulement 4% avaient plus de 65 ans. D'ailleurs, l'espérance de vie est de 67 ans. Grosso modo, c'est 43% de la population qui représente les 15-60 ans. Et d'ailleurs, 70% représentent les 18-35 ans. Donc, population très, très jeune. Alors, photo suivante. Je suis parti lundi dernier avec Ramon et Miranda Perron. Et là, on est à l'aéroport et c'est maman qui m'a amené jusque là-bas. Voilà. Maman a dû me suivre. Comme ça, j'étais bien parti, etc. Non, c'est une question de commodité, de déplacement, c'était tout. Voilà, on est là maintenant en Grande Kabylie. La Kabylie, c'est une partie, un territoire de l'Algérie. Voilà quelques photos qui vous montrent un petit peu le paysage montagneux, verdoyant, avec des vallées creuses. On remarquera pas si vite, on remarquera les pentes escarpées qui rendent des fois la vie pas facile du tout. Au fond, à droite de l'image, vous avez les premiers sommets des montagnes du Djurdjura qui culmine à 2300 mètres. Les montagnes vertes que vous voyez culminent environ à 900, 930, 940 mètres, un peu comme les Vosges. On continue. Au fond, vous voyez une espèce de chaîne de montagnes qui tourne en forme de cirque, et dans ce bassin, il y a la ville de Tizi Ouzou. Photo suivante. Au premier plan, vous voyez un lac artificiel à gauche qui vient d'être terminé il y a quelques temps par un barrage construit par les Italiens qui régule l'eau d'irrigation. Ils ont un problème d'eau assez important parce que l'hygrométrie varie très souvent. Il peut beaucoup pleuvoir, comme là maintenant c'est vert, on se dirait en Suisse ou dans les Alpes françaises. Dans un mois et demi à deux mois, c'est jaune et sec. Donc il fallait trouver un moyen de réguler l'eau. Mais ça vous donne un petit peu le climat qui règne là-bas au niveau géographique, au niveau hygrométrique. Mon frère, ma Caroline. Voilà la ville de Tizi Ouzou, quelques deux, trois clichés sur comment c'est. C'est à la fois des bâtiments en forme de tours, comme là à gauche, avec aussi des maisons individuelles comme là à droite. La prochaine photo, on découvre l'église de Tizi Ouzou, là où on se rend. C'est le bâtiment jaune que vous voyez. Bâtiment jaune, on va se rapprocher. Premier étage, c'est la salle de culte. Et deuxième étage, c'est l'appartement des pasteurs. Et derrière le mur d'entrée, il y a un petit parking pour leurs véhicules. Alors l'église, c'est pas des bâtiments, c'est avant tout des hommes. Je voudrais vous présenter deux hommes qui ont été à la base de l'église et qui travaillent d'arrache-pied. À votre gauche, c'est Tarek Verki, et à votre droite, c'est Salam Chala. Les deux garçons-là se sont convertis, alors étudiants, à Alger. Et en se convertissant, ils se sont croisés, ils se sont liés d'amitié, ils ont commencé à témoigner et à travailler autour d'eux, tout simplement. Et finalement, eh bien, ça a commencé à monter un groupe de prière qui a grandi et qui a débouché sur une église. Tarek est marié avec Debia. Tarek était prof de maths avant. Debia fait actuellement un DEA en littérature. Et puis Salah est marié aussi avec Karima. Salah était, je crois, ingénieur. Et Karima a été prof d'anglais et traductrice. Ils ont un petit Manassé qui a tout juste 18 mois, qui est une véritable joie pour le couple. Mais quand vous êtes là-bas, c'est une petite peste. Monsieur, non, pas ça, ça va très bien. Non, je rigole. Mais un soir, ils me disent, frère, demain matin, vous allez dormir un peu plus longtemps, une demi-heure de plus. Je dis, super, 5h du matin, tarat, tarat. Mais c'est comme ça, c'est comme tous les enfants de cet âge-là, je crois. Ils sont charmants, ces petites têtes blondes. On continue. Voilà enfin l'église, la salle du premier étage. Alors j'ai pris plusieurs clichés parce que c'est pas une salle comme ça en large ou en long. Elle est divisée par des poteaux. Voilà donc la partie centrale. On va continuer. La partie de gauche, la partie de droite. Ça c'est les jours de séminaire. On est en train de louer le Seigneur là. Quelques gros plans qui vont suivre sur les personnes. Remarquez la tranche d'âge peut-être. Il y a beaucoup de gens entre 20 et 35 ans, 20, 40 ans. On peut continuer. Des jeunes gens, des jeunes hommes, quelques jeunes femmes aussi. C'est très bien mélangé. Alors, ce sont des jeunes gens et des jeunes femmes qui vivent des situations pas faciles. Parce que quand on leur demande quel est votre avenir, quels sont les projets que vous avez pour l'avenir, jeunes gens, jeunes filles, eh bien, les uns et les autres vous disent partir. partir. Pourquoi ? Parce que le pays vit économiquement difficilement. Alors qu'il y a des richesses dans le sous-sol, pétrole, il y a les terres arables, les terres agricoles qui portent bien, qui pourraient être portées davantage. Et il y a une matière grise aussi, quand on prêche à l'Ubif d'Iziouzou, il y a effectivement des gens, je dirais, qui sortent de l'école secondaire, mais aussi beaucoup d'intellectuels. Et ces gens-là, eh bien, ils souffrent, parce que tout simplement, il n'y a pas de travail pour eux. Pas de travail pour eux. Voilà un jeune homme qui est en train de se fiancer avec Charlène, une Française. C'est Amirouche. Amirouche est le frère, le bat de Tarek, et il est étudiant en médecine. Et pour lui, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'avenir, même en tant que médecin, là-bas. Alors, le risque que court le pays, c'est la fuite des cerveaux à l'étranger par manque d'avenir. Et Tizi Ouzou, là où on est, vit actuellement des pensions des Kabyles qui, il y a 20 ans, 30 ans, ont déménagé en France, ont travaillé chez Peugeot et qui sont retournés là-bas. Mais la ville de Tizi Ouzou vit un problème. Dans 10-15 ans, ces gens-là auront vieilli, peut-être même seront morts, il n'y aura plus de pensions. Donc il y a un défi pour ces gens qui vivent là-bas, un vrai défi. Il y a beaucoup de jeunes, ce qui est la photo prochaine va montrer, beaucoup de jeunes reflètent de la société. Jeunes attentifs et assoiffés. C'était pendant l'enseignement. Après l'enseignement, à midi, on avait un temps de sandwich. À 13h, il y avait un sandwich qui était proposé dans l'arrière-cour. Alors cette arrière-cour-là, elle est pleine le vendredi, pratiquement pleine de gens. Là, on est en plein, une pleine pause de midi. On peut continuer. Pendant que les uns mangent, les autres reprennent les prédications du pasteur et cherchent de nouvelles explications. En tout cas, voilà la preuve que j'étais là-bas. Si vous ne le croyez pas, j'étais pas à la plage de Alger, non pas du tout, je prêchais même. Et Karima me traduisait. J'étais pas le seul prédicateur qui était là, il y avait aussi un autre prédicateur, photo suivante, qui est le frère Salvatore Polito de Metz, le frère à droite en chemise saumon. Il est une des églises comme la nôtre qui soutiennent l'œuvre là-bas et il va régulièrement une, deux fois par an en Algérie pour prêcher l'évangile. Quelques visages peut-être que je voudrais vous présenter. Voilà Tassadit. Tassadit est la sœur de Salah. Et je voulais juste vous donner son témoignage en deux mots. Tassadit me dit, quand j'étais lycéenne, Salah, mon frère, m'a parlé de la foi en Jésus. J'étais frappé par son changement. Il était devenu gentil, différent, présent à mes côtés dans mes moments difficiles. J'ai donc commencé à chercher et j'ai trouvé en Jésus l'amour et la paix. Alors je me demandais, mais qu'est-ce que ça a changé pour toi la vie avec Jésus ? Elle m'a dit, avant j'étais très nerveuse et j'ai compris que ça voulait dire angoissée, la peur de mourir, la peur de l'au-delà, une religion de la peur. Et elle me dit, et maintenant je suis patiente, je suis tranquille et j'ai trouvé la paix en Jésus. Notre jeune femme, la suivante, c'est la famille de Salah, la maman au milieu, en robe violette, avec trois sœurs et sa femme. Sur les 10 enfants que cette dame a eus, il y en a déjà 6 ou 7 de convertis, dont les deux sœurs à droite. La maman est convertie aussi, et je vous assure qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment convertie. Photo suivante, la Fatima, elle me dit, j'étais pratiquante dès ma jeunesse, j'avais entendu parler de Jésus et je l'aimais, mais j'avais peur de Mahomet. Un jour, le Seigneur m'a guidé sur son chemin et depuis, mon caractère a beaucoup changé et mes études marchent bien. Et ceux qui la connaissent m'ont dit, son caractère a beaucoup changé. Beaucoup changé. Photo suivante. Il y a aussi des personnes un peu plus aînées. À votre gauche, Ouardia, 58 ans. À votre droite, Dabia, 62 ans. L'une me dira, j'étais musulmane pratiquante, une voisine m'a prêché et j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Et elle rajoute derrière, et c'est une phrase qui revient de manière récurrente, je vis enfin dans la paix et dans l'amour. Alors, voilà l'église. Le jour du culte du vendredi, c'est le culte du dimanche chez eux. Après le culte, on m'avait prévenu qu'il y aurait des baptêmes. Je me suis dit, ok, il m'a dit, tu veux donner un coup de main au baptême ? Je dis, oui, pas de problème. Et toutes les personnes qui sont debout là, sous la croix, sont les candidats au baptême. Tenez-vous bien, il y en avait 88. 88. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je précise, 88 personnes où il n'y a pas eu d'effort d'évangélisation préalable de l'Église. Pas de film de campagne de Jésus, pas de distribution de traités, pas d'évangélisation style un concert, juste le bouche à oreille. Lorsque les gens rencontrent le Christ là-bas, il y a des tels changements que ça se voit, ça se remarque, ça provoque des discussions, des fois des échauffourées, des fois des choses plus difficiles à avaler, mais cependant ça interpelle. Et ces gens-là, il y en avait des jeunes et des plus aînés, mais beaucoup de gens entre 25 et 35 ans, je dirais. 88, il y avait 38 femmes et 50 hommes. Une croissance, les pasteurs m'ont dit, il y a à peu près actuellement environ une moyenne de 30 baptêmes par mois. Ça vous donne un peu l'ampleur de la progression, sachant que les églises évangéliques dans la région ont en moyenne entre 30, 50, 60 personnes au grand maximum. C'est la seule église qui a cette taille-là et elle grandit à vitesse exponentielle. Alors on va peut-être aller plus loin. Voilà la sœur cadette de Salah, que j'ai l'occasion de baptiser, c'est la première. Le baptême a eu lieu donc ce vendredi dernier, on continue. C'est assez... Attends, passez vite. Voilà, les baptêmes. À ma droite, il y avait Salah, et en haut, l'entresol, il y avait le frère de Salvatore Polito, qui m'a remplacé au bout des 38 baptêmes de femmes. Et lui, il en a fait 20. Après, il était crevé. Il m'a dit, j'étais crevé. J'en pouvais plus. En tout cas, on a fait ça à trois. On était à la fin, on était cuit parce que le baptistère était à une hauteur particulièrement difficile pour se courber. On continue. Après le vendredi après-midi, on est parti dans les montagnes. On est de nouveau monté en altitude à Fort National. On verra après ce que c'est. Voilà de nouveau une photo d'ensemble. Premier plan, les villages perchés sur les crêtes. Et je me demandais d'où est-ce qu'ils prenaient l'eau. Eh bien, il y a des sources d'eau à cette altitude-là. Derrière, les montagnes où on pourrait faire du ski en hiver. On continue, toujours en paysage de la Kabylie, on repasse devant, au-dessus de Tizi Ouzou, et puis on va à Fort National. Fort National, c'est une espèce de sommet qui a été pris par les Français. Vous savez que les Français sont arrivés en 1830, et ils ont mis 27 ans à gravir cette colline. Un point stratégique où il y a eu une reddition en 1857. On est là à 960 mètres d'altitude et ça s'appelle Fort National et c'était devenu à un moment donné Fort Napoléon avant de redevenir Fort National. Après cette crête-là, on redescend un petit peu et on arrive à un petit village dont j'ai oublié le nom tellement il est difficile à prononcer. D'ailleurs, j'étais assez surpris, on peut continuer, assez surpris parce qu'à un moment donné, j'étais avec une équipe de Kabyle en voiture et comme j'étais le seul Français, ils se sont oubliés, ils ont parlé que Kabyle. Et je me suis dit, c'est incroyable quand on peut se parler en langue comme ça et se comprendre. Hein. J'ai rien compris. Mais alors, rien compris du tout. Et il paraît que le Kabyle est la rare langue au monde qui comprend tous les sons qu'on trouve dans toutes les langues du monde. Il n'y a pas un son, apparemment, qui manquerait. Ici, on arrive devant l'entrée de l'église de Fort National. On peut continuer. Voilà, l'autre côté du bâtiment. Le bâtiment est accroché à la montagne. Et ce sont les parents de Tarek, que vous allez voir dans un instant, qui ont construit ce bâtiment-là. Voilà, Tarek, c'est donc au-dessus du logement de ses parents. L'église a loué pour quelques années cet l'étage, et c'est Tarek qui mène la louange avec le groupe de jeunes. Voilà un cliché suivant, un cliché d'église. Il y avait ce jour-là environ une centaine de personnes, voire 120. Bon, je n'ai pas compté honnêtement, mais il y avait le côté droit et puis le côté gauche, qui est la photo suivante. Pardon, c'est pas la photo suivante, mais c'est pas grave. C'est Tarek en louange. Voilà, la maman de Tarek, qui est là aussi. Elle a aussi eu 10 enfants et pas mal de ses enfants sont déjà convertis. Il y a des personnes d'un certain âge, mais aussi pas mal de jeunes. Voilà, une plus jeune enfant. Et voilà quelques clichés de la fin du culte. La salle de culte qui vient d'être terminée. C'était le deuxième culte qui s'y faisait ce jour-là. Et quand tout le monde se rassemble, ils sont environ 120 à 140 à se retrouver dans les montagnes. Dans les montagnes. À la fin du culte, j'étais sorti, puis il y avait là, va continuer, il y avait là encore des jeunes qui étaient là. Et puis, il y avait des jeunes filles qui étaient déjà parties, qui m'ont appelé. J'ai pris un cliché d'elles, j'ai admiré leur parure locale, colorée. Derrière l'église, quand on regardait vers l'extérieur, voilà ce qu'on apercevait comme paysage. un coup d'œil magnifique, toujours des pentes escarpées qui exigent des modes de déplacement et de transport tout aussi adaptés. Photo suivante. J'ai rencontré ces petits garçons. Tout juste avant lui, il y avait le papa qui était passé avec du foin sur l'âne. Rassurez-vous, il y a aussi des camions et des voitures là-bas. Un petit cliché plaisir, des fleurs du pays, une petite macro. Et puis, il y a aussi ce couple dont le jeune homme à droite s'est converti en 96 et il s'est converti à l'endroit suivant. Photo suivante. Vous voyez le front du jeune homme là, à sa gauche, il y a une petite grange en pierre. C'est là-dedans que Salah et Tarek ont commencé l'église en 1996 avec 2-3 copains qu'ils ont rassemblés là. Et il m'a dit, on a prié, et les uns après les autres sont venus. Dans ces montagnes-là, il s'est fait pas mal d'occultisme, et ce matin-là, pendant que j'étais au culte, il y avait eu pendant le moment de louange, tout à coup, l'onction de Dieu est venue, il y a eu 4, 5, 6 délivrances d'un coup. Tous les responsables étaient occupés à chasser les démons, notamment une jeune fille aussi qui était là, et Dieu vraiment les touche, il les aime, il les cherche. Et ça produit de la joie. Regardez voir la photo suivante. Quand les garçons chantent, il y a là une joie de vivre qui est absolument incroyable. On continue. Je vais vous inviter à prier pour ces hommes. Autant le garçon que vous avez vu avant que ce garçon, que ce jeune homme-là qui s'appelle Ramzi, qui est ingénieur agronome, qui s'est converti et qui vraiment devient un de ces piliers d'église. Photo suivante. Kamel, c'est un surnommé MacGyver. Il sait tout faire. Il sait absolument tout réparer et tout faire. J'étais venu avec un appareil photo numérique et j'avais oublié mon chargeur à la maison. Le chargeur de l'autre sœur de Metz n'allait pas. Il m'a dit, c'est pas grave mon frère, je vais te faire ça. Eh bien, il avait réussi à charger ma batterie. Voilà, je sais pas comment il fait, mais il l'a fait. Voilà Karim et son épouse Malika, qui va suivre dans un instant. Malika, qui a 28 ans, prof d'anglais, elle parle très bien l'anglais. Elle me disait, dans un témoignage, j'étais musulmane, pratiquante. Et c'est grâce à Debia, la femme de Tarek, qui était athée, qui ne croyait pas, qui était ma copine de classe. Je la voyais changer, devenir aimable, aimante. Et je m'interrogeais. Et je suis allé voir l'église où elle était. Mais j'ai pas cru, m'a-t-elle dit. J'ai pas cru pendant longtemps. Jusqu'au jour où je lui ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, enlève-moi la peine de mon cœur suite à une séparation amoureuse. Elle avait une grande douleur. Et elle m'a dit, d'un instant à l'autre, le mal était parti. Je savais que Jésus était vivant. Et depuis, elle le suit. On a prié pour ces jeunes parce que ce sont des futurs, ce sont déjà des gens qui sont en responsabilité et qui avancent. Priez aussi pour Tarek et Debia. Ils sont charmants comme ça, mais ils vivent des pressions à cause de l'environnement. Je vous rappelle que le pays est quand même à 95% musulman. Il y a des musulmans, je dirais, modérés, d'autres sont plus férus, plus pratiquants, etc. Et c'est pas toujours simple. Il y a une jeune femme qui me disait, tu te rappelles en 99? Je dis, non, pas vraiment. Mais tu vois le monsieur là-bas qui est assis là? Je dis, oui, c'est qui? C'est mon frère. Tu te rappelles ce que je t'avais dit en 99? Je dis, non, rappelle-le-moi. Elle me dit, quand je m'étais converti à Jésus-Christ, mon frère me battait quand je rentrais de l'église. Il m'a battu plusieurs fois. Mais je lui ai dit, j'aime Jésus. Et Jésus t'aime aussi. Et maintenant, ce garçon, son frère aîné, est dans l'église avec sa femme. Priez aussi pour, oui, pour le Seigneur, on peut le faire. Priez pour Karima, l'épouse de Salah, avec Nora, qui est une sœur de l'église de Béjaïa, qui est à 120 kilomètres, qui est sur le long de la côte, une ville portuaire, qui a aussi ouvert une église. Priez aussi pour Salah, le pasteur. Ah, moi, je vous recommande ses frères à cœur. Je vous mets des gros plans pour que vous photographiez leur image dans votre cœur, que vous les emmeniez à la maison. Je crois vraiment que ce sont des hommes de Dieu. Ils tiennent choc face à des défis, à des pressions des fois difficiles. On en a parlé de plusieurs, ils m'ont partagé leur fardeau. Voilà ceux qui vivent des pressions actuellement difficiles et ils comptent sur nos prières. Ils ont des batailles en mesure avec l'enjeu qui est là devant eux. Au-delà des biens matériels, au-delà des besoins matériels, au-delà des besoins de conseils et d'accompagnement, ils ont besoin de nos prières. Je termine par deux clichés encore. Voilà une mosquée à fort national. Mais ce bâtiment n'était pas toujours une mosquée. il a été d'abord une église chrétienne. Il a été d'abord une église chrétienne. Là où ça m'a frappé, c'est quand je me suis dit, là où le christianisme recule, d'autres religions, d'autres mouvements de pensée avancent. Et ce qui est arrivé à Fort National peut très bien arriver ici. Et je nous encourage à avoir le même courage qu'eux, que les frères de là-bas, à oser parler de Jésus. À oser parler de Jésus. Prions pour que l'évangile dans ce pays, eh bien, avance, pour que le vrai évangile, non pas celui des croisés, mais celui de Jésus-Christ avance. Prions qu'il fasse une percée dans le monde musulman. Prions que les frères et sœurs en Christ continuent de témoigner avec joie de leur amour pour Jésus. Prions que la lumière triomphe sous les ténèbres et que l'amour de Jésus triomphe de la peur. Le leitmotiv que j'ai entendu dans le discours des gens, c'est la peur. Et pas la peur de n'importe quoi, mais la peur de Dieu. La peur de ne pas être à la hauteur de Dieu. La peur de ne pas avoir fait assez de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Et il y a là des hommes et des femmes qui se sont réconciliés avec Dieu. Et prions que Dieu les aide à amener beaucoup d'autres encore, d'hommes et de femmes, à rencontrer le Dieu vivant qui les aime. Amen. Bien-aimés, prions aussi pour leur avenir. Vous savez que après-demain, il y a des élections présidentielles en Algérie. Et vraiment, ils m'ont dit, priez pour nous. Priez pour nous que Dieu envoie des hommes et des femmes au gouvernement qui réellement vont gouverner avec probité, avec intégrité, avec le peuple à cœur et avec la volonté aussi, ou la possibilité du moins, de pouvoir prêcher l'évangile en toute liberté. Terminer maintenant par des pensées plus personnelles à nous et pour nous. Je voudrais nous dire à nous tous, imitons-les dans le témoignage. C'est le rare, voire par endroit, le seul moyen d'évangélisation. Il y en a encore un autre, j'ai oublié, c'est la télévision. Alors la télévision, ça marche. Les paraboles, il y en a des forêts. Sous les murs des immeubles, il y a des forêts de paraboles. Et je vous assure, même le pasteur, quand il rentre le soir, il prend la machine, le zapper, et puis ils vont sur les chaînes chrétiennes. Il y a d'excellentes chaînes chrétiennes, il y en a une qui est née très récemment, et vraiment, ils sont courageux. Ils sont courageux dans nos témoignages, et ils y vont. Je me suis dit à nous tous, peut-être nous n'aurons pas tous l'occasion d'aller un jour en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou à l'autre bout du monde, mais peut-être serait-ce la raison pour laquelle Dieu nous les envoie ici. À Mulhouse, il y a 42 nationalités différentes. 42 nationalités différentes. Vous vous souvenez de Kamel que je vous ai montré avant? Kamel MacGyver? Ce matin, il m'a envoyé un email. Je lui ai dit, mais Kamel, comment tu es venu au Seigneur? Comment tu es arrivé à Jésus? Ce matin tôt, là, à 8h30, il m'a envoyé un email, il m'a donné son témoignage par écrit. Il dit, ma conversion a commencé à Paris en 1989, la veille de Noël. Un groupe de jeunes évangélistes fait son entrée dans la rame de métro où j'étais, tout en louant le Seigneur Jésus qui m'était inconnu jusque-là. Entre parenthèses, je suis issu d'une famille musulmane qui pratique l'islam traditionnel. J'étais ému par ce message imprégné d'amour, de compassion et de joie qui se dégageait de leur chant. Après quelques moments de discussion, j'étais convaincu au fond de mon cœur que c'était la vérité. Ils me demandèrent si je voulais accepter le Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie et s'ils pouvaient prier pour moi afin de recevoir le don de l'Esprit-Saint. J'ai dit oui. Le lendemain, je rentrais en Algérie avec un Nouveau Testament. Depuis, Dieu m'a fait grâce et m'a donné le courage d'annoncer la bonne nouvelle à toute ma famille, à mes amis et à mes voisins. Et à présent, nous sommes 5 frères et sœurs avec ma grand-mère âgée de 99 ans qui croit en Jésus-Christ. Et toute la gloire revient à Dieu. Des fois, je me dis, on se prend à penser, à partir en mission, et c'est très bien. Et peut-être ce soir, il y a des gens qui sont là, des jeunes qui ont senti en eux vibrer la vocation missionnaire. Mon frère, ma sœur, alimente-la. Cependant, je suis persuadé que chacun d'entre nous, devant sa porte, à son travail et ailleurs, peut rencontrer des hommes et des femmes venus d'ailleurs. Il y a 30 ans, les Kabyles ont été contraints de venir travailler à Peugeot-Mulhouse. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de travail là-bas. Aujourd'hui, ils rentrent dans le pays et ils sont une bénédiction pour le pays là-bas, en ramenant des pensions. Mais entre-temps, certains ont pu se convertir, comme Kamel. Et ils sont rentrés et ils ont ramené l'évangile dans leur pays. Et je vous assure, quand Kamel se met à discuter avec un musulman, il sait de quoi il parle. Il était lui-même musulman, il savait comment il fonctionne, il connaît les rouages de l'islam, il sait quoi leur dire avec une sagesse incroyable. Amen. Alors, j'aimerais dire, peut-être profitons de l'occasion que nous en rencontrons pour leur parler de Dieu. Intelligemment et courageusement. Mais parlons-leur de Dieu. Kamel avait soif, Malika avait soif, Karim avait soif, et ils ont rencontré le Dieu de la vie. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans le cœur de Dieu, il y a place pour tous les hommes. Bien-aimés, quand on dit tout le monde, n'est-ce pas, c'est facile. On pense à tout le monde autour de nous, qui penserait comme nous. Mais là-bas, ils pensent différemment que nous. Ils mangent différemment que nous. Ils ont d'autres saveurs que nous, d'autres odeurs que nous. Un autre pays que nous, notre économie que nous. Pas de sécu, pas forcément d'avenir. Le chômage est rampant. Mais Dieu les aime. Mais Dieu les aime. Et l'Église est appelée à les aimer. Et je me réjouis que sous le fronton de l'Église, on ait marqué « Maison de prière pour tous les peuples ». Mon frère, ma sœur, monsieur, madame, d'où que vous veniez, vous êtes aimés ici. Et Dieu vous aime. Vous êtes bienvenus ici. Dieu vous aime. L'enjeu véritable de l'Église l'Évangile n'est pas la mise en place d'institutions ou dénominations là-bas sur place, ni la construction de bâtiments ou de gloire personnelle, mais la rencontre et la réconciliation d'hommes et de femmes avec Dieu, le Père, par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle le Christ est mort sur la croix. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est pour que des hommes comme vous et moi, comme ceux que vous avez vus là sur les photos ce soir, que des hommes et des femmes arrivent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Amen. Qu'ils soient sauvés. Bien-aimés, il y avait une joie pendant ces cultes qui était communicative. Elle était là. Ils chantaient de tout leur cœur. Des fois, ça sonnait fort et même des fois faux, mais ça sonnait juste là-dedans. Tellement juste. Je vais terminer par deux textes. Ésaïe 53. Je voudrais qu'un instant on puisse se replacer 2000 ans en arrière. Dans quelques jours, nous y serons, le vendredi saint, comme on l'appelle ici. Nous allons commémorer la crucifixion du Christ, la passion. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Nous étions tous errants, pécheurs. Nos cœurs et nos consciences nous condamnaient pour le mal que nous avions fait, n'est-ce pas ? Mais il a pris sur lui nos péchés. Il a été frappé à notre place. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jean 3, verset 16 dit qu'un Dieu a tant aimé le monde. Afin que quiconque croit en lui, en celui qui a été élevé sur la croix, n'ait plus peur de devoir rencontrer Dieu. qu'ils ne périssent point, mais qu'ils puissent recevoir de Dieu la paix du pardon. Dieu a été parfaitement juste, et il est parfaitement juste en nous aimant, parce que d'un autre côté, il a frappé un innocent pour le péché qui méritait un châtiment. Je méritais le châtiment qui était dû à mes péchés. Mais Jésus, l'innocent, l'a pris sur lui, afin que moi, je puisse recevoir son innocence. Qu'est-ce que vivre si ce n'est d'être en paix avec Dieu, d'avoir une bonne relation avec Dieu, de le connaître avec pour résultat la paix avec soi-même, être capable de nouveau de se regarder dans la glace, dans le blanc de l'œil, sans devoir se dire « t'es un pauvre type ». Tolstoï, l'écrivain russe, disait « connaître Dieu ». C'est vivre. Connaître Dieu, c'est vivre. Ma question ce soir, le connaissez-vous ? L'avez-vous rencontré ? Je n'ai pas dit, avez-vous sporadiquement, de temps en temps, fait une prière et il vous a répondu. Non, je parle de, le connaissez-vous personnellement ? Je peux dire, je connais ma femme. Elle peut dire la même chose de moi. Elle me connaît. Elle vit avec moi. Elle sait comment je suis. En public comme en privé. Connaître Dieu, c'est vivre. Connaître Dieu, c'est vivre. L'enjeu du sacrifice de Christ, de tout le travail de l'Église, eh bien c'est vous. C'est vous. C'est chacune de ces personnes qui étaient là sur l'écran ce soir. Et ces millions d'autres qui sont derrière. Ces millions d'autres, ces millions de Français qui sont là autour de nous, qui n'attendent qu'une chose, c'est que des hommes et des femmes leur parlent du grand médiateur, de celui qui veut les amener à connaître l'amour de Dieu le Père. Relisons pour terminer ces versets de Jean 3, 14 à 16, et nous prierons ensuite. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Question : croyez-vous en lui ?
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.